en voyant la belle rose à côté de nous, en entendant aussi Désiré, je me suis dit que je me suis trompé de message ce matin. Il fallait parler de la fête des mères. Donc bonne fête à toutes les mamans. Mais ce n'est pas ce qui est prévu au programme. Notre épître aux Éphésiens nous emmène sur un autre terrain, un terrain dont on n'aimerait peut-être pas parler le dimanche, notre job. Aïe. Mais la Bible nous parle de tous les sujets et aussi de la manière de vivre notre travail. Alors pour détendre un peu l'atmosphère, je me suis dit que cette petite vidéo pourrait nous faire du bien. Elle montre à quel point il est difficile pour certains de parler de leur travail.
C'est que souvent, ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font au travail. Il y en a un hein, qui galère. Mais parfois, moi, je suis en soirée, tu sais, pour créer le lien avec le fait. C'est une question à toi. Tu fais quoi dans la vie? Dis donc, on a des questions. Moi, j'étais une détente. Hein, Bon, je te la fais pour, je te la fais simple. Concrètement, je fais de l'optimisation du process. Pour améliorer l'UX de notre RP. Et très concrètement, j'envoie des mails, je fais des réunions, j'écris des rapports sur les réunions concernant le mail. J'ai connu cette.
Voilà, c'était pour détendre l'atmosphère. Le contexte du passage que nous allons aborder, lui, est beaucoup moins drôle, parce qu'il est question d'esclavage. C'est dans ce contexte que la Bible apporte cette réflexion sur la manière de vivre notre activité. Elle est loin du problème du cadre dynamique qui n'arrive pas à expliquer ce à quoi il passe ses journées. Pourtant, nous allons voir, à travers cette lecture, qu'il est possible d'honorer Christ dans notre activité, quel que soit notre contexte. Et on pourra en tirer ainsi des principes susceptibles, j'espère, de transformer notre attitude au travail, quel que soit le poste, la situation que nous occupons. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens et nous allons lire les versets 5 à 9 du chapitre 6. Éphésiens 6, les versets 5 à 9. Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre, avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient, selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maître, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces. Car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Jusque-là, la lecture ce matin. En comparant ce que l'humoriste souligne dans le contexte du travail aujourd'hui et en lisant ce passage, on aurait tendance à dire que les contextes sont tellement opposés, sont tellement différents qu'il n'y aurait pas grand-chose à apprendre du passage. Et il ne faudrait surtout pas justement appliquer trop vite ce que nous lisons dans le contexte de l'Épître aux Éphésiens et notre contexte actuel. Pourtant, il est possible de trouver là des applications qui vont nous servir. Il est possible de comprendre à travers ce passage des principes qui sont au sein même de l'Évangile et qui vont nous être utiles dans notre contexte du travail aujourd'hui. Mais pour cela, il faut commencer par essayer de répondre à une question qui, je pense, brûle nos lèvres en entendant Paul. C'est de se demander, mais pourquoi en fait Paul ne commence-t-il pas par se prononcer ouvertement contre l'esclavage? On a l'impression qu'il transpose l'esclavage, quelque chose d'inhumain, on en convient tous, en mode chrétien. comment se fait-il qu'un homme rempli de l'esprit comme Paul, puisque je vous rappelle qu'on est dans le passage qui est en train de développer ce que cela signifie que d'être rempli de l'esprit. Paul l'a appliqué au cadre du mariage, il l'a appliqué au cadre de la famille, et là, il en vient au cadre du travail de l'époque. Mais on est étonné. Pourquoi Paul ne parle pas tout simplement aux maîtres en leur disant « Mais c'est quoi cette idée d'esclavage? Abolissez l'esclavage, renvoyez vos serviteurs !» C'est une question qu'il nous faut aborder avant de pouvoir comprendre ce qu'il y a vraiment comme application pour nous. Et la première chose qu'il nous faut expliquer, c'est la situation différente de l'esclavage de l'époque par rapport à ce que nous avons en tête. Comment devenait-on esclave dans la Rome antique? Quand le mot esclave est prononcé aujourd'hui, c'est bien sûr l'esclavage afro-américain que l'on a en tête, la traite des Noirs. Mais ce n'est pas à cet esclavage-là qu'était confronté Paul au sein de l'Empire romain. Dans l'Empire romain, l'esclavage n'était pas fondé sur l'origine ethnique ou la couleur de peau. Il n'était pas l'œuvre d'une civilisation sur une autre. Il faisait en fait partie du système économique et social. À l'époque de César Auguste, on estime qu'il y avait plus d'un habitant sur cinq qui en fait était un esclave. C'est une classe sociale qui compte, si je puis m'exprimer ainsi. On devenait esclave parce que l'on avait été prisonnier de guerre, ou alors parce que l'on s'était vendu soi-même, étant devenu incapable de rembourser ses dettes. Et d'ailleurs, contrairement à l'esclavage afro-américain, le sort de l'esclave de l'Empire romain n'était pas inéluctable. On estime qu'1,5 million d'esclaves furent libérés dans l'Empire romain entre moins 81 avant Jésus-Christ et moins 50, à peu près l'époque où Jules César a accompli ses conquêtes. Il était donc courant que les Romains émancipent leurs esclaves et les établissent dans le commerce ou dans l'artisanat. Et d'ailleurs, on voit des échos à cela dans la Bible. Paul encourage, par exemple, les esclaves de Corinthe qui peuvent saisir l'occasion de s'affranchir si cette occasion se présente à eux. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet, mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Et dans un autre livre de la Bible, il suggère à demi-mot à son ami Philémon d'affranchir Onésime, qui était devenu un collaborateur pour lui de l'Évangile. Alors ces quelques précisions ne sont pas là pour nous faire oublier le caractère inacceptable de l'esclavage. Un homme qui appartient à un autre, privé de ses droits, dépendant du bon vouloir de son maître, quelle que soit l'époque, cela reste inhumain. Mais c'est juste pour nous éviter le piège grossier de projeter nos valeurs, nos manières de réfléchir à une autre civilisation qui, soyons-en conscients, aurait tout autant de leçons à nous donner par rapport à ce que nous pratiquons aujourd'hui. Cela étant dit, cela n'explique toujours pas pourquoi Paul, qui reconnaît justement sans ambiguïté que l'état d'homme libre vaut mieux que celui d'esclave, ne cherche pas à combattre plus ouvertement, frontalement, l'esclavage en lui-même. Alors il y a tout un tas de raisons qu'on pourrait avancer, mais je dirais qu'on pourrait les condenser en une seule, qui est, finalement revient toujours quand on réfléchit aux grandes injustices qui sévissent encore aujourd'hui. Cette grande raison, c'est que est-ce que le remède ne serait pas pire que le mal? Si vous libérez des centaines de millions d'esclaves et que vous les mettez tout d'un coup sur le marché du travail, est-ce que vous allez générer de la précarité, du chômage? C'est un peu la même problématique que justement cette petite chaussure de marque qui est peut-être fabriquée dans un pays à l'autre bout du monde par des petites mains d'enfants qui seraient mieux à l'école qu'au travail, mais que si tout d'un coup, moi, je n'achète plus cette chaussure, c'est peut-être le seul revenu de cette famille qui est ôté. On a ce même genre de problématique aujourd'hui. Et la solution n'est pas si simple que cela. Encore une fois, cette remarque n'est pas là pour tomber dans un pragmatisme froid, en se disant « bon, ben alors, puisque c'est comme ça, ne nous posons pas de questions », mais elle nous amène à mieux saisir la pointe et la centralité de l'Évangile, et pourquoi l'Évangile parle de l'esclavage sous cet angle-là. La pointe de l'évangile, ça n'est pas premièrement de changer les choses, mais de changer les cœurs. Et il faut comprendre ça pour comprendre pourquoi ce sujet est abordé sous cet angle. Changer les choses sans changer les cœurs est voué à l'échec. L'esclavage a été aboli une première fois en France à la Révolution française, adossé à la Déclaration des droits de l'homme que chaque homme est disposé à disposer de sa vie. Napoléon n'a eu aucun souci, quelques décennies plus tard, à revenir là-dessus. Les cœurs n'avaient pas réellement changé, tout le monde l'a accepté. Je ne sais pas si tout le monde l'a accepté de bon gré, mais on est revenu en arrière. Cela nous montre que s'il n'y a pas de changement de cœur, une loi, un combat ne changera pas forcément le système durablement. La stratégie de l'évangile est différente. La Bible affirme qu'en Christ, il n'y a plus ni esclave ni libre. On a ça dans l'Épître aux Galates. Et dans notre passage, Paul affirme en fait que l'on soit esclave ou que l'on soit homme libre, la fin va au même endroit. Nous recevrons de Dieu selon ce que nous aurons fait de bien ou pas. En fait, Paul, la Bible, l'Évangile, nous montre que le statut social, quelle que soit l'époque, n'est pas si important devant Dieu. C'est ce qu'il avait dit tout à l'heure. Si tu es appelé en tant qu'esclave, ne te fais pas de mouron pour ça, ne t'en soucie pas. Si tu as l'occasion, vas-y. La stratégie de l'Évangile, c'est justement de saper le fondement. Un homme au-dessus de l'autre, un homme égaux avec l'autre. Paul est tout simplement en train d'allumer la mèche qui va finalement produire l'explosion qui entraînera la destruction de ce mode de fonctionnement. L'Évangile ne s'attaque pas à l'injustice du système directement. Il s'attaque à notre problème principal, le péché logé au plus profond de notre cœur, que nous avons tant de mal à débusquer. D'ailleurs, la défense d'une cause juste, sans être sensible à tout ce que nous venons de décrire, est un piège terrible pour l'homme. Parce qu'il a l'impression que le problème principal est extérieur à lui, alors que le problème principal est intérieur. Pour ceux qui ont suivi les vidéos cette semaine et ce mois par rapport à la parentalité, on l'a beaucoup entendu. Le problème n'est pas tant extérieur qu'intérieur. Notre problème, ça n'est pas notre condition, c'est notre cœur. C'est notre cœur. J'aime beaucoup cette petite anecdote au sujet d'Abraham Lincoln qui souligne vraiment cet enjeu justement dans le contexte de l'esclavage. Au début de la guerre de sécession, on rapporte qu'un partisan du président, Lincoln, affirma que son espoir était du côté des nordistes puisqu'il défendait une cause juste, notamment l'abolition de l'esclavage. Et Lincoln, dans toute sa sagesse, lui répondit « Je sais que Dieu est toujours du côté de la justice. Mon souci constant et ma prière, c'est que moi-même et la nation tout entière, nous restions du côté de Dieu. » La défense d'une cause juste ne règle en rien le problème principal qui est le nôtre. Nous sommes profondément égocentriques. C'est d'ailleurs pour cela que les systèmes que nous créons sont si injustes. Paul ne s'en prend donc pas directement au problème de l'esclavage, ce qui ne signifie pas qu'il l'approuve. Par contre, mettre en pratique les paroles de Paul mettra tôt ou tard fin à l'esclavage. On peut penser que ça a été plutôt tard que tôt, c'est tout à fait possible, mais ça c'est plutôt la dureté de nos cœurs qui est en cause. Alors ça c'était pour le contexte, mais il est quand même très intéressant pour nous de revenir à cette idée que Paul applique l'Évangile à la situation même des esclaves de l'époque, non pas pour lutter contre leurs conditions, mais pour qu'ils vivent de manière cohérente à leur foi au sein même de leurs conditions. C'est ce que nous avons donc dans ce texte que nous avons lu, et je le relis en soulignant à chaque fois cet élément en lien avec le rapport à Christ. « Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour les hommes. Avant d'entrer dans l'attitude préconisée par Paul, il nous faut bien saisir la conséquence radicale de ces exhortations. Il est possible d'honorer Dieu, quelle que soit notre condition, même lorsque celle-ci semble particulièrement injuste. Cette condition ne devrait pas être notre préoccupation principale. Ne te soucie pas tant de ta condition. Cherche à servir Christ dès maintenant. Car dès aujourd'hui, quelle que soit ta situation, tu peux le servir. Et c'est cela qui change réellement la vie. Alors, après avoir souligné ce principe, examinons maintenant de plus près comment il va transformer notre rapport au travail. Et pour cela, il nous faut donc déjà voir quelle implication cela avait dans le contexte de Paul. Alors, si on regarde les exhortations de Paul du côté des esclaves, sans surprise, Paul leur demande d'obéir à leur maître. Ah, sans surprise, la surprise est quand même là, une fois encore, comme il l'avait fait avec les épouses, qui était une rupture totale avec les habitudes de l'époque, comme il l'avait fait avec les enfants, il s'adresse directement aux esclaves, et lui-même les considère comme des personnes à part entière, responsables, qui ont un rôle à jouer là-dedans. En ça, c'est totalement novateur. Et que doivent faire ces esclaves? Ils ne doivent pas considérer leur relation avec leur maître comme si la seule relation entre eux était celle d'un maître avec un esclave. Ils doivent envisager cette relation sous l'angle de leur relation à Dieu. C'est ainsi qu'ils doivent obéir avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce qu'on ne désobéit pas à Dieu impunément. Cela n'implique pas que le maître terrestre représente Christ. Cela implique que dans les faits, ce n'est pas le maître que les esclaves servent, mais le Christ. Ils doivent obéir avec droiture, non pas pour marquer des points devant leur maître terrestre, mais pour plaire à Dieu. Cela veut dire que même quand on ne les surveille pas, même quand il n'y a pas de bénéfice pour eux, même quand ils pourraient faire à leur guise, ils sont appelés à agir fidèlement à leur mission, parce que c'est le Seigneur qu'ils servent. Et il ne s'agit pas uniquement de viser le résultat, il s'agit de le faire avec zèle et bonne volonté. Car on ne peut pas servir Dieu du bout des lèvres, mais uniquement avec une entière reconnaissance. La barre est haute, elle semble impossible à porter. C'est pour ça qu'elle est dans le paragraphe qui nous invite à vivre cela en étant pleinement remplis de l'Esprit de Dieu. Si les esclaves se distinguent donc, les esclaves chrétiens se distinguent donc des autres, il en est de même pour les maîtres. À l'époque, nombre de maîtres brandissaient des menaces pour tenir leurs esclaves dans la soumission et les diriger d'une main de fer. Pour Paul, le maître chrétien renonce complètement à employer ce genre de tactique malveillante. Il met le maître sur le même plan que l'esclave. Ils sont appelés à agir selon les mêmes principes qu'eux. C'est-à-dire à se rappeler qu'ils auront des comptes, eux aussi, à rendre à un autre maître. Et oui, c'est ça l'idée. Au jour du jugement, leur statut de maître n'aura plus aucune importance. La seule chose que Dieu retiendra, c'est la manière dont ils se seront comportés avec la responsabilité qu'ils avaient. Cela signifie quoi? Que les maîtres ne font pas ce qu'ils veulent. Et là encore, rappelez-vous, nous sommes dans ce passage qui nous explicite ce que cela signifie que d'être soumis les uns aux autres. Bien sûr, on va se dire, comment un maître peut être soumis à un esclave? Parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut, et parce qu'il est soumis à un principe qui le dépasse. La manière dont ils vont traiter leur esclave en dit long sur la manière dont ils révèrent Christ, et en définitive, c'est cela qui compte à la fin. Notre statut social sur Terre n'est de loin pas l'important, parce qu'il n'est que passager. Alors, et aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre situation est à la fois totalement différente, mais à la fois pas si éloignée. Différente dans le sens où aujourd'hui un patron n'est propriétaire de personne. On ne lui appartient pas. La différence est considérable. Un esclave était appelé à supporter la situation coûte que coûte. S'il avait un bon maître, il pouvait louer le Seigneur pour cela. S'il en avait un malveillant qui lui infligeait de mauvais traitements, il devait faire avec. Impossible de changer de job. Il n'avait pas le choix. Écoutez comment Pierre le dit de manière encore plus explicite. Serviteur, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qu'il lui dit, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées. Dur, hein ? Dur, là où place la barre, notre ami Pierre. Hein ? Et puis, malgré cela, il devait travailler, comme le dit Paul, de bon gré et avec zèle. Ce n'est sans doute pas l'intérêt de son travail qui allait l'amener à faire cela. Hein ? Sa satisfaction ? Saisir que même la tâche la plus avilissante qui soit, il pouvait l'accomplir avec joie, car il savait qu'il honorait le Seigneur. Heureusement, aujourd'hui, la différence est grande. Pourquoi ? Parce que nous avons le choix. Un patron nous casse les pieds, on peut changer de job. Notre boulot n'est pas intéressant, on peut aller voir ailleurs. On peut être reconnaissant de vivre une telle époque, hein. Il ne s'agit pas de renier ça. On peut être reconnaissant de l'évolution de notre société. Pourtant, force est de constater que ce choix ne change pas fondamentalement les choses. Le code de travail censé protéger le droit des salariés se retourne aussi contre eux lorsqu'il déshumanise les relations. On ne craint plus aujourd'hui les coups de fouet, mais la violence psychologique. N'être qu'un pion sur un échiquier que l'on peut changer du jour au lendemain. Parfois, c'est même le sens de notre travail, comme dans la vidéo de tout à l'heure, qui pose question. Et si on donnait la parole aux uns et aux autres ce matin, ceux qui sont peut-être au bout de leur parcours professionnel, ils pourraient témoigner à quel point les choses se sont dégradées ces dernières décennies. Et Paul nous lance un défi incroyable. Il est possible d'avoir du zèle, d'accomplir sa tâche de bon gré, d'éprouver une certaine satisfaction, même dans le contexte le plus difficile. Il nous dit en quelque sorte que nos conditions de travail ne sont qu'une partie du problème. Vous vous rappelez, ce n'est pas ce qui est extérieur, mais ce qui est intérieur, le véritable problème. Parce que si ce que l'on a dit ce matin pour la condition d'esclave du 1er siècle est vrai, à combien plus forte raison elle doit l'être pour nous aujourd'hui ? Alors comment vivre cela ? Eh bien en vivant notre travail avant tout comme un service pour notre Seigneur. En accomplissant notre tâche avec zèle, non pas parce qu'on est dans une bonne équipe de collègues, non pas parce que notre hiérarchie nous apprécie, ou pas parce que notre travail porte du fruit, qu'il y a du résultat, mais parce que le Seigneur nous regarde, qu'il aime que ses enfants agissent avec fidélité en toutes circonstances, parce qu'ils puisent leur force, non pas dans la motivation que leur donne le travail, mais dans la joie de le servir, lui. On réalise aisément que sans être rempli du Saint-Esprit, c'est tout simplement impossible. On aura toujours l'impression de se faire flouer par des humains, au lieu de saisir qu'en fait, c'est Dieu que l'on est en train de servir. Et les plus jeunes, vous êtes aussi concernés, hein ? Parce que tout ce qu'on dit s'applique aussi à la période des études. Le moment où les cours nous barbent, où les profs sont injustes ou pas très passionnants. Bon, si vous étiez encore un peu réveillé, vous vous leveriez sur votre chaise et vous diriez « Nicolas, c'est pas possible de faire ça. On peut pas tenir toute l'année avec un prof barbant. » Vous avez raison. Sans le secours du Saint-Esprit, c'est impossible. C'est pour ça que ce passage, il est dans ce paragraphe-là. Mais ce passage ne s'adresse pas uniquement à nous dans notre rôle de serviteur. Il nous interpelle aussi lorsque nous sommes dans le rôle du donneur d'ordre. Et pas besoin d'être chef d'entreprise ou cadre dynamique pour être dans ce rôle. Pour nous sentir concernés par ce que Paul dit au maître. Il me semble que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous appelés à jouer un rôle d'autorité, un stagiaire à former. Un rôle, voilà, où quelqu'un arrive et plus jeune dans l'entreprise ou dans le métier que l'on pratique et on va lui expliquer comment ça fonctionne. Quelle est alors mon attitude ? Est-ce que je lui fais subir les années de frustration de tout ce que j'ai eu à supporter, moi, quand je suis arrivé ? Est-ce que j'abandonne parce qu'on ne m'a jamais donné le rôle hiérarchique de le former ? Je ne suis pas son chef, j'ai pas le salaire qui va avec, alors qu'on se débrouille. Est-ce que je deviens un petit tyran qui fait appel à la pression psychologique, à la manipulation pour obtenir ce que j'aimerais qu'il fasse ? La manipulation, ce n'est pas toujours les autres, en fait. C'est aussi nous. Sans l'aide du Saint-Esprit, impossible de ne pas tomber dans ses travers. De ne pas vouloir obtenir de quelqu'un d'autre ce que l'on aimerait qu'il fasse en utilisant des stratégies psychologiques. Alors, bien sûr, pour un peu amortir la chute, tout ce que nous disons là n'enlève pas les recours que nous avons à notre disposition dans notre société du XXIe siècle, que nous soyons du côté de l'employé ou de l'employeur. On peut être un leader respectueux de ses employés et les licencier s'ils n'accomplissent pas la tâche telle que le contrat le stipule. On peut être employé respectueux de son patron tout en dénonçant les injustices à son travail jusqu'aux tribunaux. Seulement, rappelons-nous la petite phrase de Lincoln tout à l'heure. Ce n'est pas parce que la cause que nous défendons est juste que notre attitude le sera, forcément. Paul s'adressait à des esclaves qui n'avaient pas le choix. Le fait d'avoir le choix est parfois un piège pour nous. Il nous faut veiller, justement, à bien mettre en pratique ce que Paul nous dit ce matin. Il nous faut prier pour rester constamment du côté de Dieu. Sans l'assistance du Saint-Esprit, soyons certains, nous n'y arriverons pas. Il est temps de conclure. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ce que je vous ai dit ce matin. Elle est exigeante, mais elle est là. Il est possible d'honorer Christ à travers notre activité, quel que soit le contexte. Quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, même si elle est profondément injuste, il est possible de faire notre travail pour Christ, de montrer la différence que fait notre Sauveur. Mais pour cela, nous devons progresser dans un domaine particulier. Arrêtez de séparer ce qui se passe le dimanche matin, qu'il est si facile d'écouter parce que c'est dimanche et qu'on n'est pas au travail, du lundi matin et de ce moment où il va falloir mettre en pratique tout ce que l'on a dit, amen ou pas d'ailleurs, à la prédication du dimanche. D'après ce que nous lisons ce matin, par nous-mêmes, c'est tout simplement impossible. Parce que contrairement à ce que nos yeux voient, quand nous faisons notre travail, ce n'est pas l'AEDE, l'éducation nationale, la banque postale, Alain, le petit chef qui abuse de son pouvoir que nous servons, mais c'est Christ. Et ça, nos yeux ont bien du mal à le voir tout au long de la semaine. Alors, quelques propositions pour tenter de relever ce défi. Je sais que ce n'est pas toujours évident de porter des sujets comme cela dans nos réunions de prière d'église. Et c'est pour ça qu'on a ces petits groupes de croissance, où on se retrouve à deux ou trois, des endroits où justement c'est plus facile de partager des sujets qui concernent ce que l'on vit dans notre milieu professionnel. Si jamais vous n'aviez pas encore un tel groupe, on peut en parler après le culte. Autre proposition, après les vidéos du mois de mai, je vous propose cette semaine, dans votre groupe WhatsApp, le groupe de maison, de poster un sujet de prière qui concerne votre travail. Je sais, ça va être un défi difficile. Beaucoup de groupes sont en berne, mais voilà, saisissez l'occasion, puisque le but c'est de vivre ce qu'on a dit dans la semaine, et c'est là où l'enjeu est présent, pour poster cette semaine un sujet de prière qui concerne votre travail. Une situation où vous êtes conscient que vous avez besoin d'être pleinement rempli de l'Esprit. Et puis, il y avait cette bonne habitude, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qu'on avait prise avant le confinement. Prier pour l'un d'entre nous, justement, pour faire la transition entre ce qu'on a dit et le lundi. Alors, on fera ça, on va remettre ça un petit peu au goût du jour et on le fera tout à l'heure, dans le moment de la vie d'Église. Soyons conscients qu'il y a un enjeu spirituel qui nous dépasse lorsque notre réveil sonne chaque matin pour nous envoyer au travail. Nous ne pouvons pas accomplir notre travail sans réaliser que nous avons besoin de la présence de Dieu pour le faire. Nous ne pouvons pas remplir cette mission sans être remplis de l'Esprit. Que le Seigneur nous viennent en aide. Amen.